L'histoire de ma voix. Je me souviens comme tous les petits garçons quand on me prenait pour ma mère au téléphone. Je me souviens des inflexions viriles des voix de mes frères, ces voix que j'ai imitées, singées souvent. Je me souviens de mon professeur de théâtre qui m'a appris à la poser, cette voix, à coups de Dalai Lama à la Dalai Lima et casse la Dalai Dallas. Je me souviens de tous ces exercices de diction qui travaillaient mes articulations mais aussi mes identités, assumer ces aigus, prendre plaisir à certaines manières, laisser le trouble s'installer, pourquoi pas. Je me souviens du jour où j'ai fait un stage à la radio et devant la directrice des programmes, je bafouillais pour dire qui j'étais, pas grand chose à l'époque. Elle m'a écoupé net en me disant qu'en tout cas j'avais une voix. Je me souviens de ma voix fluette quand j'ai parlé les premières fois dans un micro et puis l'assurance qui est venue malgré moi. Je me souviens de ma voix chaque fois qu'elle a tremblé, trébuché, chaque fois qu'elle s'est cassée. Et je me souviens des jours de cortisone aussi, des jours de silence, de miel et de thé. Je me souviens de la fois où un avocat m'avait proposé de l'assurer ma voix, ce qui m'avait fait comprendre que j'étais pas grand chose de plus que ça. Je me souviens du jour surtout où je me suis dit que j'allais plus m'excuser d'être comme ça, un jour de fierté, un jour d'assomption de qui j'étais, le jour où j'ai trouvé ma voix.
Boomerang, Boomerang, Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mon invitée d'aujourd'hui se souvient-elle du jour où elle a trouvé sa voix qui depuis 8 ans résonne dans le monde entier pour tous ceux qui peinent à se faire entendre. La semaine prochaine, on la retrouvera aux côtés de Françoise Hardy, Vanessa Paradis, Elie Medeiros, Camélia Jordana ou encore Jeanne Haddad dans le documentaire de François Armanet, Oh les filles, qui interroge le rock'n'roll sous l'angle du féminin. Bonjour Imani.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous.
Merci.
Ce matin, tout d'abord, quand est-ce que vous avez découvert que vous aviez une voix? Vous vous souvenez?
Je me souviens très bien, j'étais très jeune parce que moi j'ai une grosse voix depuis très longtemps. Et je sais pas exactement quel âge j'avais, mais ça doit être autour de la maternelle. Et en fait, c'est les adultes qui m'ont fait remarquer très vite.
Quelle réaction est-ce qu'elle suscitait cette voix?
C'était toujours oh, « Mais qu'est-ce que c'est que cette grosse voix? C'est quoi cette voix ?» Et donc, à force d'entendre ça, j'ai intégré que ma voix, elle n'était pas normale.
C'était une voix trop grave, une voix de garçon, parfois?
Oui, c'était une voix de garçon, une voix d'ogre, une voix d'ours, on disait. J'avais tous les noms d'animaux.
Voilà. Et comment est-ce que vous avez fini par l'accepter, cette voix, Imani?
Ça m'a mis beaucoup, beaucoup de temps. Même parfois encore, je lutte avec elle pour... Des fois, je me mets à pas l'aimer parce que j'aime pas comment ça sonne. Ça m'a mis beaucoup de temps. Vers la vingtaine où d'un coup, je passe de la voix d'ogre à la voix sexy.
Ça veut dire que vous avez pris du temps aussi à vous donner l'autorisation de chanter, en fait, tout simplement, à faire entendre à tous cette voix.
Ah oui, oui, oui. Je chantais toute seule pour moi. Je chantais pas pour les autres. Parce que j'en avais un complexe, c'est que quand j'allumais ma radio, j'entendais pas de femmes avec des voix comme la mienne. Et je me disais que ce désir de chanter, c'était que dans ma tête.
Quand est-ce que vous avez compris, Imani, que chanter, c'était aussi une façon de donner une voix à ceux qui n'en avaient pas? Parce que c'est central, ça, chez vous.
C'est vrai. Je pourrais pas dire exactement quand, mais c'est au fur et à mesure, à force de faire, à force de faire des concerts, de rencontrer les gens et puis même quand je pense aux artistes qui m'ont touché, qui m'ont bouleversé, c'est souvent des artistes qui ont essayé de changer le monde par leur musique.
Pensez à qui?
Je pense à Nina Simone tout de suite. Nina Simone, c'est une chanteuse militante, mais il y a aussi Tracy Chapman, Bob Dylan, tous ces chanteurs qui par leur texte, enfin quand vous prenez la chanson de Bob Dylan, Blowing in the Wind, qui a bouleversé une génération de Noirs américains, alors que lui c'était un petit blanc du Midwest. C'est dire comment la force de la musique peut aller loin et tout dépasser.
Qu'est-ce que vous ressentez, vous, quand vous chantez, quand votre voix s'élève dans une salle de concert ou sur les ondes, tiens?
Ça dépend des jours, mais... Maintenant que je l'ai à peu près apprivoisé, j'essaye de sortir de mon corps et de vivre, de me laisser transporter par ce que je dis et par ce que les gens me donnent en face et de plus vraiment écouter ma voix, mais plutôt de la vivre. Je sais pas si ça a du sens.
Ça a du sens. Ouais. Votre voix, les auditeurs de France Inter l'ont déjà entendu, évidemment, Imani, mais au cas où certains auraient besoin qu'on leur rafraîchisse un petit peu la mémoire. Bah, Imani, c'est ça. And you will never know.
What I feel, what I need from you. Et
puis c'est ça aussi, la chanson du film Sous les jupes des filles. Take off your clothes. C'est une autre chanson que j'aime particulièrement. En fait, c'est pour votre participation à un documentaire qui s'appelle « Oh les filles » que je vous reçois aujourd'hui. Il manie un film qui examine la manière dont les femmes se sont emparées du rock en France. Quand est-ce que vous vous êtes rendu compte, vous, que l'industrie musicale dans son ensemble était pensée et dirigée par des hommes et que la place des femmes n'était pas forcément évidente?
Pour être complètement honnête, je ne me suis pas du tout posé la question dans ces termes. Moi, je voulais faire de la musique et je travaillais comme une folle pour y arriver. Et j'y suis parvenu, je me suis fait signer par un producteur masculin. Et je me suis pas posé la question comme ça, j'ai tracé mon chemin en espérant que d'y arriver. Après, c'est vrai que quand on est une femme dans la musique, c'est pas tous les jours facile, mais je pense que quand on est une femme, c'est pas tous les jours facile tout court. Il y a des choses qui sont attendues quand vous êtes une chanteuse, oui. Surtout quand vous êtes lead, plus que on est plus exigeant, je pense, avec les femmes qu'avec les hommes.
Il paraît que quand vous êtes lancée dans la musique, on vous a dit que vous étiez trop belle pour chanter des chansons tristes. Qu'est-ce que ça voulait dire, ça?
Ben ouais, mes premières chansons, elles étaient pas bon. Même mes dernières chansons, elles sont toujours pas très très lumineuses. Mais c'était des chansons tristes et j'étais aux États-Unis et les producteurs américains qui eux, alors c'est encore pire là-bas parce que tout doit rentrer dans des boîtes spéciales. J'étais une fille noire, je venais de la mode, donc en plus je devais faire du R&B et rien d'autre. Et on me disait, ça intéressera personne, les chansons tristes d'une jolie fille, ça intéressera personne.
Et en quoi, Imani, est-ce que les artistes féminines, grâce à leur succès et à l'exposition médiatique qui va avec, sont-elles parvenues à réinventer, à votre avis, le féminin, à proposer justement une nouvelle image de la femme, à sortir de ces boîtes là?
Je pense que quelque part, les femmes, elles n'ont pas le choix. On est obligé de s'adapter. C'est ce qui a en même temps fait notre force. On est obligé de composer avec ce qu'on veut bien nous donner. Mais du coup, c'est ce qui nous rend plus intéressantes.
Pour autant, et c'est passionnant, on en parlait hier avant-hier avec la femme rabbin et philosophe Delphine Horviller, le droit des femmes, aujourd'hui, je pense notamment au droit à l'avortement, il est plus que jamais menacé. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça, ces retours en arrière, sans cesse?
Moi, je trouve ça extrêmement intéressant. J'arrive toujours pas à comprendre pourquoi il y a cet incessant, retour en arrière et pourquoi on s'en prend à la femme en permanence. C'est ce désir de l'homme de contrôler la femme. On a beau progresser techniquement, on a beau progresser intellectuellement, il y a toujours ce bon vieux regain de la sortie de la caverne où l'homme tape avec sa massue sur la femme et j'arrive pas à comprendre pourquoi. J'arrive pas à comprendre la peur là-dedans.
Ça vous met dans quel état, vous? Ça vous donne envie de continuer à vous battre, justement?
Oui, évidemment, je pense qu'il faut pas lâcher, il faut continuer de se battre, il faut crier, il faut s'indigner, mais aussi il faut parler, il faut essayer de comprendre d'où est-ce que cette peur elle vient, parce que je pense que c'est de la peur, en fait. Je pense que l'homme en face, il a peur de, je sais pas, du pouvoir de la femme, ou de la place qu'il perd, ou de la place qu'il laisse à la femme, je ne sais pas. Et je pense qu'il faut parler, et je pense aussi que les hommes qui sont de notre côté, il faut qu'ils parlent un peu plus fort.
Celle qui ne parle pas très très fort dans cette émission, on aimerait bien qu'elle s'exprime un petit peu plus clairement. D'ailleurs, peut-être que vous la connaissez, Imani, c'est la culture, et son actualité qui ne croit absolument en rien. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, mercredi 26 juin?
Part of what drew me to reading was the beauty of language and like witnessing what language could do when you immersed yourself in a story.
Jasmine Radieuse, le chant des revenants de la romancière américaine Jasmine Ward a reçu hier soir le prix America 2019, attribué par la revue trimestrielle du même nom, déjà auréolée en 2017 d'un National Book Award, considéré comme la plus prestigieuse récompense littéraire américaine. Le roman met en scène une famille noire du Mississippi rongée par la drogue et par les séquelles de la ségrégation raciale dans le Vieux Sud. Auteur de 5 ouvrages où elle déploie une littérature incarnée, poétique, engagée, Jasmine Ward est considérée par beaucoup comme l'héritière de Toni Morrison. Come on.
Dancing in the moonlight, I know you are free. I can see your star shining down on me.
C'est reparti pour Glastonbury, événement musical le plus populaire de Grande-Bretagne, rendu mythique par la boue et la pluie qui l'accompagnent traditionnellement. Le festival de Glastonbury débute aujourd'hui, après avoir annulé son édition 2018 pour laisser le terrain, qui accueille 150 000 festivaliers, quand même se reposer. La manifestation promet du lourd pour son retour. Au programme The Killers, The Cure, le Wu-Tang, Chris ou encore la diva R&B So 90s Janet Jackson, Kirker.
T'as préparé à dîner ?
Si tu veux dîner, tu n'as qu'à le restant.
Oui, mais alors dans le meilleur restaurant du monde, hein, Cocorico Les Cocos, pour la toute première fois, un restaurant français a été élu meilleure table du monde dans le classement établi par le magazine britannique Restaurant, référence en la matière. Il s'agit du Mirazur à Menton, tenu par le chef italo-argentin Mauro Colagreco, déjà sacré d'une 3e étoile au guide Michelin en janvier dernier. L'établissement à l'ambiance méditerranéenne et à la vue panoramique propose chaque jour un menu unique en fonction de la récolte du potager maison de 5 hectares dans le Baba le Noma. Et mercredi de canicule, on se rafraîchit sur pellicule, car aujourd'hui, dans les salles obscures et climatisées, on décolle vers l'infini et au-delà avec Toy Story 4, quatrième volet de la saga Pixar, signé Josh Cooley. On prend le frais avec Yves, la farce déjantée de Benoît Forgeart, portée par un frigo connecté. Et sinon, on succombe au charme de La femme de mon frère, la comédie assez hilarante, je dois dire, de la québécoise Monia Chokri, Total Tiguido. Et la musicienne Imani, invitée de Boomerang ce matin pour sa participation au film Oh les filles, on en parlait en salle mercredi prochain, documentaire dans lequel vous dites que somme toute, vous avez été élevée comme un garçon. Imani, qu'est-ce que ça veut dire ça?
Mais c'est vrai, mon père était militaire, il a toujours voulu avoir des garçons, il a eu quasiment que des filles. Le garçon a mis du temps à venir et du coup, il nous a élevés comme des petits soldats.
Mais alors, ça veut dire que cette éducation très stricte, qu'est-ce que vous en avez retenu? Qu'est-ce que ça vous a apporté, à votre avis?
Bah, ça m'a apporté l'endurance, ça m'a apporté la discipline, ça m'a apporté aussi... Oui, je pense que je suis assez versatile, je m'adapte à toutes les situations, comme tout bon soldat. Ça m'a apporté... un peu cette espèce de rage de vivre.
Et c'est une famille qui était traditionnelle, hein, vous le dites volontiers, le poids des traditions, comment est-ce qu'il se manifestait?
C'était très traditionnel, c'est-à-dire qu'à la fois j'étais élevé comme un garçon, mais quand même il fallait que je passe par la casse-cuisine.
verbe passer par la casse-cuisine.
Voilà. Donc il fallait que je sache faire à manger, passer la serpillière, tout ça, parce que l'angoisse de ma mère c'était qu'un jour je me marie et qu'on lui reproche d'avoir mal élevé sa fille. Donc le mariage c'était très important, mon père pensait au bac mais ma mère pensait au mariage. Et il y avait tout ça, quoi. Il fallait être une bonne femme au foyer quand même.
Alors quelle vie est-ce que vous imaginiez que vous mèneriez plus grande à l'époque?
Au départ, je sentais bien que l'histoire de la femme au foyer, c'était pas tellement mon truc. Mais je voulais voyager, je voulais partir de chez moi. Je voulais avoir ma chambre à moi. Et je voulais voyager, je voulais surtout chanter, je me l'avouais pas, je me disais vraiment que c'était pas pour moi, parce que d'abord tout le monde me le disait, et puis j'avais pas d'exemple de rien qui se présentait à moi comme une possibilité, mais au fond de moi j'avais vraiment cette envie de chanter et de partir.
Vous paraphrasez Virginia Woolf quand vous dites « je voulais avoir ma chambre à moi », et pourtant c'est la découverte d'un autre livre, « Les mémoires d'une jeune fille rangée » de Simone de Beauvoir, qui a changé votre façon de percevoir votre avenir. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous souvenez?
Je me souviens, je lis le livre et je me prends une gifle parce que je comprends qu'effectivement ma condition de femme, de future femme au foyer, future femme mariée, future mère de 10 enfants, elle n'est pas obligatoire en fait. Que ce que disent mes parents, c'est ce que disent mes parents, mais ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Et que à l'intérieur de moi, il y a ma propre vérité et c'était à moi d'aller la chercher.
Alors comment s'est orchestrée cette rébellion, Imani?
Moi, j'ai été une rebelle assez maligne. Hein. J'ai pas été de celle qui est arrivée et qui a tout brûlé. Mais bon, j'ai quand même commencé par me raser la tête, c'était quand même bien radical.
Ah, c'était ça radical, effectivement.
J'avais des beaux longs cheveux, et puis en plus ça m'allait pas du tout, donc c'était pas du tout... Je l'ai regretté à peu près 2 minutes après l'avoir fait. Mais en fait, j'ai été repéré dans la rue et je suis devenu mannequin.
Oui, c'est ça, quitter la France alors que vous étiez quand même très jeune, dans quelle mesure c'était un geste de rébellion pour vous maintenant que vous y pensez?
C'est un gros geste de rébellion parce que quand on est une Française mais d'origine comorienne, musulmane, normalement, quand on est une fille, on quitte son chez-soi que mariée. En tout cas, moi, j'avais été élevée comme ça. Et donc, je partais à 18-19 ans, toute seule, aux États-Unis. Je parlais pas très bien anglais. J'avais pas grand-chose dans les poches. Mais ma mère, elle était...
Épouvantée.
Ouais, mais mon père, il m'a laissé faire, mais il était pas non plus très, très serein, je pense. Et je pense que c'est mon premier gros acte de rébellion.
Et dans ces années de mannequinat à New York, où était la musique? Où était la possibilité pour vous de devenir musicienne? Vous qui n'aviez pas de formation musicale, qui n'avez jamais fait de musique autre part que dans votre chambre, en fin de compte.
Oui. En fait, j'arrive aux États-Unis, à New York précisément, et c'est tellement l'énergie de la ville. Les gens que je rencontre, je me dis, ah là là, s'il y a bien un endroit où je peux essayer, c'est ici. Et je rencontre, en fait, ce qui est tout simple, c'est qu'il y a le 11 septembre qui arrive, et l'économie s'écroule, et les mannequins de classe moyenne, comme j'aime bien dire, comme moi, tombent dans les trous, quoi, on travaille plus. Et ça a été, en fait, ma chance. D'un coup, je galère, vraiment. Et alors que mes copines travaillaient au McDo depuis l'âge de 16-18 ans, moi, j'ai été mannequin, je connaissais pas du tout cette vie de galère, d'une certaine manière. Et donc, je commence à galérer, à faire des petits boulots, et plein de petits boulots à l'américaine, et je rencontre des gens, des chanteurs, des auteurs, des réalisateurs, des mecs comme moi qui crèvent de faim et qui me disent, mais si tu veux faire de la musique, t'as qu'à essayer et faire. Et c'est comme ça, en fait, que ça
commence. Donc, ce que vous nous dites, en fait, ce qui a rendu ce parcours possible, c'est aussi la galère, c'est ce moment où, dans le pire moment, on se dit qu'on peut choisir sa vie, que tout est possible.
Ben exactement. En fait, moi, j'ai eu une révélation. Je m'apercevais. J'avais 2-3 boulots en même temps. Je rentrais chez moi. Il était 3-4 heures du matin. Je repartais. Il était 6-7 heures. Et je me disais, je vais galérer comme ça pour payer mon loyer. Ça n'a pas de sens. Donc, autant galérer pour faire ce que j'ai vraiment envie de faire. Et donc, du coup, je me suis dit, prenons tous les risques et crever de faim pour crever de faim. Au moins, à la fin, je ferai ce que j'ai envie.
Des larmes. Il y en a eu beaucoup, Imani.
Ouais, il y en a eu beaucoup. Ouais.
Qu'est-ce qui vous fait pleurer, vous?
Il y a plein de choses qui me font pleurer, larmes de joie, larmes de tristesse, ça me fait pleurer, ce dont on parlait tout à l'heure, ce retour en arrière qu'on demande aux femmes de faire, ça me fait pleurer, de voir les enfants dormir dans la rue le soir dans Paris, ça me fait pleurer, ça me fait pleurer aussi les progrès de mon petit bébé,
l'émotion, la beauté aussi vous fait pleurer.
La beauté me fait pleurer, oui.
Le courage
me fait pleurer, tout ça me fait pleurer.
On va pleurer ensemble alors.
On va pleurer.
On écoute There Were Tears, extrait de votre deuxième album The Wrong Kind of War. Vous êtes sur France Inter avec Imani. Vous écoutez Boomerang.
Tears and fears, even in my dreams. The sound of my wound in my inner stream. They unchain my legs, but I've been always free. I always stood, even on my knees. They were no begging, they were no pleas. I always knew blood could be the price of peace. Sons and daughters, here I am. You can knock, 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 knock on my door. Pain or laughters, here I am. Knock, 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 knock on my door. Don't stop fighting till some hearts are bleeding. Don't stop fighting while they keep on lying. Truth never lies, they will fall apart. Truth never lies, they will fall apart.
And TPGs and return stories do not erase all the memories. Working before they preach, we were no men. I will be defined through their eyes. Children of the hope, please realize that freedom is in your mind. Sons and daughters, here I am. You can knock, 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 knock on my door. Freedom fighters, here I am. You can knock, 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 knock on my door. Don't stop fighting till some hearts are. One was falling, sure will fall down. One was falling, sure will fall down. If there's no justice, there won't be no peace. One was falling, sure will fall down. One was falling, sure will fall down. If there's no justice,
there won't be no peace. Sons and daughters, here I am. You can knock, 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 knock on my door. Freedom fighters, here I am. You can knock, 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 knock on my door. Don't stop fighting till some hearts are bleeding. Don't stop fighting while they keep on lying. Truth never lies, they will fall apart. Don't stop fighting till some hearts are bleeding. Don't stop fighting while they keep on lying. Truth never lies, they will fall apart. Truth never lies, they will fall apart.
Sur France Inter, Augustin Trapenard.
En fait, c'est assez difficile de ne pas être tant soit peu intimidé hein, avec son port de tête altier, sa haute silhouette, ses yeux qui lui mangent le visage. On a tout fait d'être hypnotisé au point d'en perdre son micro, sa gomme ou même son latin. Alors on se cache dans un coin, on se recroqueville et on se fait tout petit. Et c'est elle qui finit par faire le premier pas en nous appâtant d'un sourire bienveillant, d'une caresse derrière l'oreille ou d'une douce chansonnette avec sa petite robe ce matin sur laquelle je vois apparaître des petits cœurs. La musicienne Imani, invitée de Boomerang ce matin donc pour sa participation au documentaire « Oh les filles », un film dans lequel vous et d'autres artistes féminines, on le disait, témoignaient de l'évolution du milieu du rock. Le rock, quelle musique est-ce que c'est pour vous, au fond? Une musique très large, non?
Imani. Le rock,
ouais.
Oui, moi je pense que c'est une musique très large. Je pense que d'abord c'est une attitude. Ça s'est construit comme ça, par une attitude. Et je pense que le documentaire, il est large pour cette raison. Parce que c'est d'abord une sincérité, c'est être soi-même pour moi. Je pense que c'est ça le rock. Si vous êtes vous-même et vous n'essayez pas d'être autre chose... et que vous ne vous excusez pas d'être qui vous êtes, quelque part vous êtes rock.
C'est-à-dire que Nina Simone, par exemple, que vous citiez tout à l'heure, elle est rock.
Ah, Nina Simone, elle est super rock. Nina Simone, elle est même gangsta, comme ils disaient.
Elle est gangsta?
Oui, elle est. Elle prend aucun prisonnier, quoi. Elle arrive, elle tue tout. Elle est très honnête. Elle a pas peur de qui elle est. J'ai l'impression. Et puis d'ailleurs, elle s'est fait plein d'ennemis parce qu'elle n'avait pas la langue dans sa poche, parce qu'elle était militante et qu'elle a, elle a mis son cœur et son ouvrage au service des autres.
Vous vous souvenez du jour où vous l'avez entendu pour la première fois?
Nina Simone?
Mmh.
Non, je sais pas, non, je crois pas. Par contre, je me rappelle de l'effet que ça m'a fait. Et ça m'a, encore une fois, ça m'a mis une gifle parce que elle aussi, elle fait partie de ces chanteuses avec des voix étranges qui, si on est honnête, normalement, elle n'aurait pas dû chanter. D'ailleurs, ben, quand on connaît sa vie, elle n'aurait pas dû chanter.
Oui.
Elle était un peu comme Gainsbourg. Elle pensait un peu que c'était un peu un espèce de sous-art.
Et c'est surtout qu'à un moment mineur. Donné, on la force à chanter. On lui dit, sinon t'es viré.
Exactement. Et puis, elle n'aime pas tellement sa voix. Elle vient aussi de l'église avec sa mère. Et elle entend les vraies chanteuses de gospel. Elle voit bien qu'il y a une différence avec la sienne. Donc, sans connaître son histoire, il y avait quelque chose qui résonnait dans son histoire avec la mienne.
Qu'est-ce qui fait, en fin de compte, la beauté d'une voix pour vous? Et là, c'est autant à l'auditrice qu'est la chanteuse que je m'adresse, Imani, sa fragilité.
Oui, je pense qu'il y a la fragilité, l'authenticité, et c'est encore la même chose. À partir du moment où vous êtes vous-même et vous n'essayez pas de faire de votre voix autre chose, quelque part, ça résonne dans le cœur de quelqu'un.
Alors, vous le disiez, Nina Simone est aussi une icône très engagée dans la lutte pour les droits civiques. Et c'est quelque chose qui vous parle, évidemment, aussi par votre expérience américaine. Je pense, dans quelle mesure l'artiste, pour vous, peut-il avoir un rôle politique? Doit-il même, parfois, l'avoir?
Moi, je pense qu'en tout cas, le rôle des artistes, il ne doit pas juste s'arrêter à collecter ses droits d'auteur et prendre son chèque et partir. Je pense que c'est ce qu'on disait en début d'émission, c'est la voix... Vous êtes la voix de ceux qui n'en ont pas, quelque part. Donc, il faut pouvoir ouvrir sa bouche et dire des choses qui comptent.
Mais je me souviens, moi, de votre intervention lors des Victoires de la Musique, il y a 2 ans, où vous dénonciez les violences policières, notamment envers des jeunes noirs. Dans quel pays est-ce que vous avez eu l'impression de grandir, en fin de compte, Imani ?
Je pense que c'est un peu les deux. J'ai grandi en France et j'ai grandi aux États-Unis. Aux États-Unis, je suis devenue une adulte, en fait. J'ai ouvert les yeux sur ce qu'était le monde aux États-Unis, puis je suis revenue en France. Ça fait déjà 10 ans, hein, un peu plus maintenant. Et je suis revenue en France avec les yeux complètement ouverts. Donc, ouais, j'ai grandi en France, je suis française et je pense que... Et je pense que voilà, il y a des choses à faire en France pour améliorer la vie de tout le monde. Il y a énormément d'injustices.
C'est ça, grandir en France en étant une jeune fille noire. Quels préjugés, quelles injonctions, quel poids est-ce que ça suppose ?
Ben, ça suppose que j'en discutais avec ma petite sœur pour tout vous dire. Et elle est mariée avec quelqu'un qui est blanc. Et alors c'est tout bête, mais elle me disait, moi je dois toujours sortir avec ma carte d'identité alors que lui, à l'âge qu'il a, ben il n'y pense jamais. Et c'est pas grand chose, mais c'est un petit détail qui fait que quand on grandit noir ou pas seulement noir, hein, quand on est une minorité dans ce pays, on sait qu'on va pas être traité de la même manière. Donc on fait gaffe, on essaie d'être d'avoir un comportement qui fait qu'on nous reproche rien parce que la société va être plus dure avec.
Puis la carte d'identité, c'est pas n'importe quel objet, c'est assez symbolique.
Quoi. Voilà.
Au fond, l'émancipation, ça tient à quoi pour vous ?
Ah, ouh là là, vaste sujet. L'émancipation, ça tient au courage. Il faut se battre. L'émancipation, c'est tous les jours, c'est pas acquis. C'est quand même quelque chose de très très fragile, et il faut se battre pour et l'atteindre et le maintenir.
Vous avez l'impression de vous battre tous les jours, encore ?
Oui.
Contre quoi ? Contre quelles injonctions ?
Bah les miennes déjà, contre moi-même, c'est-à-dire que on parle d'être soi-même, mais il faut s'accepter tel qu'on est, et tous les jours c'est un but pour moi de m'accepter tel que je suis. Maintenant que j'ai des enfants, je mets la barre encore un peu plus haut parce que j'ai envie d'être un exemple pour eux sans avoir à leur faire la morale, voilà.
Et puis ça peut se faire dans la joie aussi.
Absolument, voilà.
Et c'est un moment de joie d'ailleurs, ouais. Que vous avez choisi de nous offrir ce matin, en reprenant « I wanna dance with somebody » de Whitney Houston. Pourquoi ce titre, Imani, à part pour me réjouir au réveil ? C'est la question que je me suis posée.
Alors, « I wanna dance with somebody », c'est une chanson de Whitney Houston qui, à l'époque où c'est sorti, c'est très pop, c'est très dance, et alors ça donne envie d'aller sortir avec ses copines un vendredi soir.
Je ne vous le fais pas dire.
Sauf que ma version, ça va peut-être vous donner envie d'aller vous recoucher.
Parce que... Pour faire des beaux rêves.
En fait, c'est une chanson qui est très très bien écrite. Et je trouve que la prod dance lui enlève la profondeur du texte. Et j'avais envie d'honorer le texte. Et du coup, on a un peu cassé le tempo, on a un peu cassé la couleur, mais on a gardé l'essentiel de la chanson,
vous
j'espère.
Vous êtes accompagné à la guitare ce matin par Tao, que je salue. Et c'est à vous deux, quand vous voulez, maintenant même. On y va.
Clock strikes upon the hour and the sun begins to fade. Still enough time to figure out how to chase my blues away. I've done all right up until now. It's the light of day that tell me how. When the night falls, my loneliness calls. Oh, I wanna dance with somebody. I wanna feel the heat with somebody. Yeah, dance with somebody, with somebody who loves me. Oh, I wanna dance with somebody. I wanna feel the heat with somebody. Yeah, I wanna dance with somebody, with somebody who loves me. I went in love and lost my destiny through the town. Sooner or later the fever ends and I wind up feeling down. I need a man who'll take a chance on a love that burns hard enough to last. So when the night falls, my loneliness calls. Oh, I wanna dance with somebody. I wanna feel the heat with somebody. Yeah, I wanna dance with somebody, with somebody who loves me. Oh, I wanna dance with somebody, and I wanna feel the heat with somebody. Yeah, I wanna dance with somebody, with somebody who loves me. Oh, don't you wanna dance with me, baby? Oh, don't you wanna dance with me, boy? Oh, don't you wanna dance with me, baby? With somebody who loves me.
La classe quand même, le matin comme ça. Merci tellement Imani de reprendre en direct dans notre studio I Wanna Dance With Somebody de Whitney Houston. C'est exclusivement dans Boomerang, vous vous en doutez. Merci aussi à votre guitariste Tao qui vous accompagnait ce matin. La prise de son était signée Pauline Laverdure et Rémi Sistiaga à France Inter. Je rappelle Imani que Oh les filles de François Armanet avec Françoise Hardy, Vanessa Paradis, Camélia Jordana, Elie Medeiros ou encore John Aded sort mercredi prochain. Je rappelle aussi que votre DVD live Imani sort donc le 18 octobre 2019. Tout de suite, ça va être l'heure des médias. Hein. L'instant M
c'était
avec Sonia.
C'était magnifique.
Ah bah tant mieux, je suis content que
attention,
ça vous ait plu.
Attention, moment de grâce sur
moment
France Inter. C'était
oh
sublime.
Bah, les moments de grâce, on en a eu cette année.
Oui.
Hein. Et ça, c'en était un beau. Bah, vous allez être ému.
Merci, Mani. Ah non, c'était vraiment très très beau. Bon. À demain.